Bonjour, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Grand Bien vous fasse. Ce matin, appel à la solidarité à l'initiative de France Inter et de la Fondation Hulot. Zoom ce matin sur quelques acteurs de la solidarité sur le terrain. Coup de projecteur sur leurs actions, leurs motivations, leurs satisfactions et leurs frustrations en cette année présidentielle. Nous verrons également que pratiquer la solidarité, c'est évidemment un bienfait pour les autres, mais aussi pour soi, dans une sorte de cercle vertueux qui ruisselle sur la société. Et vous, racontez-nous vos actions solidaires au quotidien. Dites-nous tout au 01 45 24 7000 par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook. Et puis dans un instant, vous retrouverez la petite philo de la pub et des marques de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Déménager gratuitement, s'offrir un repas de chef à la maison, tout se troque, tout est possible.
C'est comme si on jouait aux riches, quoi, mais sans l'être.
On se rend pas compte.
Toutes les capacités qu'on a à donner des services, en fait, tout ce qu'on sait faire.
Des associations d'étudiants aident des chômeurs à retrouver du travail.
C'est trop beau.
C'est sûr que ça te rend tout de suite très, très crédible et très sérieuse.
C'est pas que des vêtements, c'est redonner de la confiance aux gens.
Bonjour madame.
Des magasins gratuits voient le jour.
Il n'y a rien pour rien, c'est quoi? Elle dit oui, tu peux entrer, tu peux choisir 3 articles et tu repars. J'ai dit sans payer, mais c'est pas possible, hein, c'est une blague. Hein.
C'est bon.
C'est parti.
Partout la débrouille est de retour. Aujourd'hui, la solidarité, c'est l'affaire de tous.
Et oui, la solidarité, c'est l'affaire de tous. Un extrait du documentaire Ensemble, c'est mieux, diffusé sur France 3 en 2014 et réalisé par Claire Lajeunie et Julie Zouobada. Pour évoquer ce matin les bienfaits de la solidarité pour les autres et pour soi, Guillaume Holstein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de l'association Le Carillon, dont l'action d'entraide est orientée vers les sans-abri. Bonjour Pauline Bédon.
Bonjour.
Vous êtes éducatrice, directrice de la maison d'enfants des apprentis d'Auteuil à Sannois, dans le Val d'Oise. Bonjour Guillaume Duval.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef des dossiers d'alternatives économiques, avec à la une en ce moment, reconstruire la solidarité. Et en duplex de France Bleu à Grenoble, Rebecca Shankland, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence et chercheuse en psychologie à l'université de Grenoble-Alpes, responsable du diplôme universitaire de psychologie positive. Et vous avez notamment publié « Les pouvoirs de la gratitude » chez Odile Jacob. Alors selon l'INSEE, le taux de pauvreté en France avoisine les 15% de la population en 2015, en augmentation par rapport à l'année précédente. Une personne sur 7 vit sous le seuil de pauvreté. La moitié des personnes pauvres subsistent avec moins de 805 euros par mois. Enfin, les personnes habitant dans une famille monoparentale sont particulièrement touchées par la pauvreté. Guillaume Duval, tous ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté ou juste au-dessus ne demandent pas la charité, mais plutôt la solidarité pour avoir un espoir raisonnable de réussir sa vie avec les autres.
Oui, donc la mesure de la pauvreté, c'est une mesure conventionnelle. Hein, donc ça représente 60%, enfin le seuil de pauvreté représente 60% du revenu médian des Français. Donc un Français gagnait en moyenne 1680 euros par mois. Et donc on dit que les gens qui sont en dessous de 1008 euros sont pauvres. Et donc ceux qui sont encore plus pauvres, c'est ceux que vous évoquiez, donc en dessous de 800 euros. Là, ces gens-là donc sont forcément dans des situations matérielles très difficiles parce que ça... difficile de vivre avec un niveau de revenu comme ça. Alors, ça dépend un peu des régions malgré tout. Hein. Il y a des niveaux de prix de logement, etc., des prix des logements en particulier qui sont différents. Mais effectivement, il y a un consensus assez large pour dire qu'il faut aider ces gens-là à gagner plus. Alors, gagner plus, ça peut être d'abord agir pour l'emploi, mais je pense qu'on va y revenir. Hein. Beaucoup de ces gens-là sont évidemment des chômeurs d'abord. Mais c'est aussi la situation des familles monoparentales qui est souvent très difficile. Elle constitue une partie très importante de ces pauvres. Et enfin, aujourd'hui, beaucoup de ces pauvres sont aussi des jeunes, ce qui est une situation tout à fait nouvelle pour la France. Pendant très longtemps, la pauvreté était surtout une pauvreté chez les vieux. Ce n'est plus le cas, mais par contre, la pauvreté chez les jeunes a beaucoup augmenté ces dernières années.
Et vous montrez dans votre hors-série qu'il n'y a pas de fatalité en matière de précarité, de pauvreté, et qu'il existe en France un gisement d'initiatives solidaires qui ruisselle sur l'ensemble de la société.
Oui, donc nous en listons un certain nombre dans ce hors-série. Je pense qu'on y reviendra sans doute. Mais effectivement, il y a dans ce pays des associations d'insertion, des chantiers d'insertion, beaucoup de structures qui agissent très efficacement et très fortement sur ces terrains-là. Alors, elles ne sont pas toujours suffisamment aidées par les pouvoirs publics pour développer suffisamment leurs activités. Mais effectivement, c'est pas simplement de l'argent dont ces gens ont généralement besoin. Ils ont besoin d'un accompagnement social pour réintégrer le monde du travail quand ils en ont été éloignés pendant très longtemps, pour faire face à des difficultés qui se conjuguent, qui sont multiples. Et il faut traiter à la fois les sujets sociaux, les sujets de logement et les sujets de travail et d'emploi pour réussir effectivement à les aider. Et c'est ce que ces structures réussissent à faire.
Alors, à l'occasion du 10e anniversaire de la mort de l'abbé Pierre, Thierry Kuhn, le président d'Emmaüs France, regrettait un déni de solidarité dans notre pays. Vous partagez ce constat, Guillaume Holstein, cofondateur de l'association Le Carillon, ou Pauline Bédon, directrice de la Maison des Enfants des Apprentis d'Auteuil. Guillaume Holstein, déni de solidarité.
Oui et non. Oui d'une manière générale et non dans l'envie. On sent vraiment, alors en France et ailleurs, qu'il y a une vraie envie, un besoin de sens. Nicolas Hulot, tout à l'heure ici, parlait de supplément d'âme. On cherche, on a besoin de sens. Mais on ne sait pas forcément comment faire à notre niveau pour exercer correctement notre solidarité.
Pauline Bédon.
Oui, je partage totalement cette volonté de recherche de sens. À titre très individuel, dans l'établissement des apprentis d'Auteuil à Sannois, j'ai vraiment très régulièrement des gens qui souhaitent d'une manière ou d'une autre prêter main forte à notre action. Donc je vois cette envie. Et puis, il se trouve que à titre personnel, l'année dernière, j'ai eu la chance d'avoir un petit garçon, d'être en congé maternité, et le nombre de coups de fil que j'ai pu avoir de jeunes femmes de ma promotion, j'ai fait une école de commerce, qui à 35-40 ans avaient du mal à retrouver du sens dans leur grande entreprise et se poser la question de l'engagement, de la solidarité. Voilà, je ne compte plus sur le doigt d'une main, mais il en faudrait plusieurs pour les compter.
Rebecca Shankland, c'est quoi exactement la solidarité? C'est la même chose que l'altruisme? C'est la même chose que la générosité?
Ah, c'est une bonne question. On pourrait dire que la solidarité, c'est la manifestation concrète de l'altruisme, qui peut se manifester aussi sous d'autres formes. Et la solidarité, c'est le fait de venir en aide à des personnes concrètement.
Guillaume Holstein, votre définition de la solidarité, c'est avant tout agir avec les autres, la solidarité? Le avec est très important.
Ouais, pour moi, la solidarité, c'est le avec. C'est pas forcément pour les autres, c'est aussi pour soi. C'est aussi accepter de recevoir. Hein. Mais c'est d'abord le avec. Et ça, c'est ce qui est le plus important.
Pauline Bédon, votre définition de la solidarité?
Alors oui, je crois que c'est agir avec les autres en prenant conscience de l'humanité qui est dans l'autre. Vraiment, moi je lis altruisme et solidarité dans le sens où toutes les actions de solidarité qu'on essaye de développer chez les jeunes qu'on accueille visent à leur redonner confiance en l'autre, à ce que l'autre fasse sens, à pouvoir à nouveau refaire confiance aux adultes, au monde qui m'entoure.
Guillaume Duval.
Oui, la principale différence que je peux faire entre solidarité et charité, par exemple, c'est effectivement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire considérer l'autre comme un égal de soi-même, comme quelqu'un qui a les mêmes droits et les mêmes capacités que soi. C'est ça qui différencie la solidarité d'autres formes.
Il n'y a pas de relation descendante quand on parle de solidarité. Ah, c'est ça, Guillaume Holstein.
C'est ça, oui. Alors, comme l'égal de soi ou comme un complément, c'est-à-dire que l'autre peut-être différent, mais il n'est pas mieux ou moins bien. Et c'est ce qui nous amène aussi à la notion d'amitié, dont la vraie solidarité découle finalement. On se rend compte que ceux avec lesquels on est les plus solidaires, ce sont nos proches, nos amis. Et au Carillon, ce qu'on souhaite, c'est d'abord recréer des petits réseaux d'amitié très locaux pour que la solidarité devienne une conséquence naturelle finalement.
Dites-nous en deux mots, on va y revenir largement tout à l'heure, l'objet de votre association Le Carillon.
Alors en un mot, amitié, et en deux mots, très local. L'objectif, c'est de recréer du lien entre des personnes qui sont seules, de lutter contre l'isolement, notamment des personnes en situation de grande précarité, mais finalement de tout le monde, vraiment de tout le monde, des commerçants, des habitants, des sans-abri, pour que chacun, très localement, comme dans un esprit village, eh bien, se connaisse, se reconnaisse par son prénom, et pour ça on utilise le levier du service qui permet de se rencontrer.
Pauline Bédon, les apprentis d'Auteuil.
Alors notre grande mission, c'est accueillir, éduquer, insérer et former la jeunesse qui connaît des difficultés. Dans l'établissement plus particulier que je dirige, j'accueille 59 adolescents garçons, de 13 à 21 ans qui nous sont confiés au titre de la protection de l'enfance. Donc à qui on dit qu'ils ont besoin d'être aidés. Et nous, on va leur dire, oui, mais vous, vous êtes capable d'aider.
On y reviendra tout à l'heure. Nous attendons au standard de France Inter vos initiatives en matière de solidarité, les bienfaits que cela procure aux autres et sur vous. Rebecca Changland, on y reviendra tout à l'heure, vous êtes en duplex de Grenoble, vous nous direz que les gens heureux sont plus altruistes et plus solidaires. En attendant, il est temps de retrouver la petite philo de la pub et des marques de Thibaut de Saint-Maurice.
Le soleil vient de se lever.
Faudrait être fou et penser plus.
Non, il faut bien secouer, sinon la pub, elle reste en bas.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Alors cette semaine, dans votre petite philo de la pub et des marques, vous vous penchez sur la communication solidaire.
Non, bah, ce serait vraiment avec plaisir, mais là, enfin, ce mois-ci, ça m'arrange pas.
Une prochaine fois peut-être, mais là j'ai un métro.
I don't speak French.
Donc déjà pour les animaux, je peux pas aider tout le monde. Merci.
Non, parce que vraiment, si je pouvais, je le ferais, parce que vraiment, je trouve que vous faites un super boulot. Enfin, c'est vraiment déjà, voilà.
Maître du monde, tu connais ou pas?
Ah oui, je suis désolée, j'ai vraiment pas le temps. Je suis pressée. La prochaine fois, promis, ok?
Ça va rien durer.
La prochaine fois, je te promets.
Extrait donc du spot No Excuse de Médecins du Monde, qui est le spot publicitaire donc récompensé en décembre 2016 à la dernière cérémonie du Grand Prix de la communication solidaire. Et donc vous l'avez entendu, hein, c'est les fausses excuses ou les excuses qu'on donne quand on ne veut pas s'arrêter avec dans la rue devant ces jeunes qui nous proposent quelques minutes pour faire un don pour Médecins du Monde. Et ben voilà, la communication solidaire, figurez-vous que ça existe. Et pour ceux donc qui en douteraient, il y a même une association qui s'appelle Communication sans frontières, créée en 2003, et qui organise donc notamment chaque année ce grand prix de la communication solidaire. Et concrètement donc, la com ou la pub solidaire, c'est d'abord la pub des ONG, comme on vient de l'entendre, des fondations, des associations, toujours à but non lucratif.
Sauf que Thibaut, cette pub solidaire, ça reste de la pub quand même.
Oui, et c'est bien tout son souci. La pub solidaire, ça sonne d'abord un peu comme une contradiction dans les termes, vous savez, comme un oxymore, hein, comme un silence éloquent ou une croissance négative. Bon, parce que la pub, c'est quoi? C'est un art de la séduction, mais qui ne crée pas juste pour la beauté du geste, qui crée pour être efficace avant tout. Et c'est pour ça que certains lui reprochent de verser parfois dans la manipulation. Soit donc la pub de Médecins du Monde qu'on vient d'entendre, ou de la Fondation de France, par exemple, est une bonne pub. Elle cherche alors l'efficacité, mais elle risque de tomber dans une forme de manipulation. Soit au contraire, ces pubs tentent de faire simplement passer leur message dans le plus grand respect de notre raison, et elles risquent alors de perdre un peu en efficacité et de ne plus se distinguer d'une simple information, bref, finalement, d'être de mauvaise pub.
Alors, une communication solidaire, c'est une belle utopie?
Eh bien, peut-être pas complètement, et pour le comprendre, je vous propose un petit retour en arrière, 2500 ans, hein, dans l'Antiquité grecque, au moment donc où apparaissent quasiment en même temps la philosophie et la démocratie, bref, le souci de la discussion publique. Et le champion toute catégorie de cette discussion publique, eh bien, c'est Socrate. Alors pourquoi Socrate? Parce qu'il est le premier à faire la distinction entre persuader et convaincre. Persuader, c'est charmer, c'est emporter l'adhésion en jouant sur les cordes sensibles de nos émotions. C'est l'art des sophistes et puis c'est l'outil aussi principal des politiques. Convaincre, c'est au contraire amener l'autre à reconnaître la vérité des raisons que l'on avance. En fait, on s'adresse à sa raison et on le laisse faire le chemin des arguments vers la vérité. C'est l'art, au fond, de ceux qui sont soucieux de la vérité et qu'on appellera plus tard les philosophes.
Alors, quand on pratique la communication solidaire, on cherche plutôt à persuader ou plutôt à convaincre?
C'est un peu toute la question. Pour vous convaincre de faire un don, de soutenir une cause, quel est le bon choix? Est-ce qu'il faut s'adresser aux émotions, au risque d'être parfois un peu indécent, ou à la raison, au risque finalement de générer de l'indifférence? Ce que montre Socrate, c'est la possibilité de concilier les deux voies. Socrate le fait lorsque dans la même discussion, il manie l'ironie, la maïotique. Vous savez, la maïotique, c'est le gros mot pour indiquer cette fameuse technique d'interrogation qui permet de faire accoucher les esprits et d'avoir des réponses. Et puis aussi quand il convoque des exemples spectaculaires des mythes. Voilà, le pari de la communication solidaire et d'une association comme Communication sans frontières, c'est un pari socratique. C'est le pari d'une troisième voie, la possibilité de convaincre efficacement en mettant les émotions au service de la raison, parce que les causes défendues, elles sont si importantes qu'elles demandent de l'engagement. Et cet engagement-là, de nous autres, public, cible, citoyen, c'est un engagement de tout notre être, à la fois du cœur comme de la raison.
La petite philo de la pub et des marques, c'est tous les jeudis dans Grand Bien vous fasse avec Thibaut de Saint-Maurice. N'hésitez pas à partager vos initiatives solidaires et les bienfaits que cela procure aux autres, évidemment, et à vous-même. 01 45 24 7000. Colline et Eliès attendent vos coups de fil et par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com. Benjamin Biolay interprété Roma à 10h24.
France Inter. Grand bien vous fasse.
Ce matin, appel à la solidarité à l'initiative de France Inter et de la Fondation Hulot. Coup de projecteur sur les bienfaits de la solidarité pour les autres et pour soi. Bonjour Michel, vous nous appelez de Valbonne, dans les Alpes-Maritimes.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour. Et merci. Bonjour à tous. Je vous appelle parce que vraiment, je ressens un énorme bien-être, enfin c'est peut-être le mot mal choisi, d'appartenir à une toute petite association qui s'appelle la SAMA, basée à Antibes. On n'est pas très nombreux, 120 adhérents et une trentaine de personnes qui y agissent.
C'est déjà pas mal, Michel.
Et le fait d'agir, ça c'est fort, parce que on est en relation directe avec les habitants d'un village du Burkina Faso et d'un village de Madagascar. Mais on n'hésite pas non plus à aller à Vintimille apporter du secours aux migrants. Et cette équipe travaille vraiment avec créativité, avec ça nous fait du bien. Et là maintenant, on est passé aussi, parce qu'on est un petit peu tous des retraités, à part deux ou trois, et on a joint un autre groupe des jeunes. Alors on les a trouvés dans les écoles et les collèges alentours, et on les fait participer à des actions de collecte, en particulier de fournitures scolaires ou de produits d'hygiène ou de mercerie. On échange avec eux, on va dans les classes, on parle de l'action. Et vraiment, c'est, on a l'impression d'être utile pour les autres, mais évidemment, bien sûr, d'être utile à nous-mêmes aussi. Je suis assez émue, mais c'est vraiment quelque chose de fort dans nos vies. Et chaque fois qu'on se retrouve pour travailler, je vous assure que c'est intense et qu'en plus on a des résultats parce que les villages dans lesquels nous intervenons se prennent en charge. On n'est pas là à leur faire de l'assistanat. Mmh. On a fait un groupe de femmes qui cousent, on leur achète des productions qu'on revend ici. Avec l'argent, elles ont acheté des poules et puis elles vendent des œufs et puis maintenant elles nous demandent de les aider à faire un poulailler plus grand. Et ce sont des toutes petites gouttes d'eau, mais vraiment avec des personnes qui sont vraiment dans notre effort de développement et aussi de solidarité.
Guillaume Holstein, ça vous parle, hein, ce que nous dit oui. Michel de Valbonne.
Et oui, ça
parle. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'association Le Carillon.
Oui, merci. Ça parle parce que ce sont toutes ces petites gouttes d'eau, ces grains de sel, ce travail de fourmi.
C'est la stratégie du colibri.
Exactement, du bras, bravo, quelle culture, qui à la fois est efficace parce que ça montre à soi-même et aux autres que chacun, voilà, si on fait quelque chose à notre niveau, si on s'y met tous, on y va, et puis ça rend heureux et elle le dit très bien, merci hein, de le préciser.
Pauline Bédon.
Oui, alors vraiment complètement, et effectivement c'est ce qu'on essaye de faire toucher du doigt aux jeunes que nous accueillons dans l'établissement d'apprentis d'Auteuil, à travers différentes actions. On leur a proposé de participer à des maraudes, on leur propose chaque année de participer à des chantiers de solidarité internationale, où l'idée est vraiment un groupe de jeunes en France, mais avec un groupe de jeunes là-bas à égalité, qui vont ensemble mener une action. Alors bien sûr, hein, ça va être transformer une décharge en potager, ça va être encore une fois des actions très précises et très concrètes, mais qui normalement doivent pouvoir résonner sur ces jeunes adultes en construction.
Rebecca Shankland, Michel nous parle de bien-être, mais c'est pas un bien-être égoïste, c'est un bien-être qui rejaillit sur les autres.
Oui, c'est ça, j'ai trouvé très intéressant le témoignage de Michel, puisqu'elle commence par dire « j'éprouve un immense bien-être ». Et souvent, les personnes nous disent « quand on développe plus de bien-être, ça rend plus individualiste », alors qu'en réalité, les recherches montrent exactement l'inverse. C'est-à-dire que plus les personnes se sentent heureuses, plus elles ont tendance à coopérer, à venir en aide aux autres et à être également plus généreuses. Par exemple, dans une enquête qu'on avait menée, on avait mesuré notamment le degré de bien-être. Et à la suite de cette enquête, on remettait une somme d'argent aux participants pour les remercier d'avoir participé. Et on leur disait qu'ils pouvaient remettre une partie de cette somme pour une association d'aide aux victimes. Et ce qu'on constatait, c'est que les personnes qui se déclaraient plus heureuses à ce moment-là donnaient aussi plus d'argent.
Guillaume Duval, d'Alternative Économique.
Oui, je voudrais juste... c'était effectivement très, très touchant et très intéressant comme témoignage. Je crois qu'il faut se garder cependant d'opposer, je dirais, l'activité individuelle de chacun, associative, etc., et l'action publique. Hein. Dans le témoignage de madame, il y avait par exemple quelque chose qui était important, c'était de dire on est des retraités. Donc, c'est des gens qui ont de l'argent public par ailleurs pour subvenir à leurs besoins. Et une des questions qu'on peut se poser, par exemple, c'est à force de repousser l'âge de départ en retraite, est-ce qu'on va avoir suffisamment de bénévoles dans un certain nombre d'associations, notamment dans ces domaines-là, hein. Et d'autre part, si toutes ces associations existent, se développent, et c'est très bien, et impliquent des gens sur le terrain, c'est aussi parce qu'il y a des avantages fiscaux qui sont donnés à ce type de dépenses d'associations. Donc il y a une articulation à trouver entre l'action publique et l'action individuelle, collective, associative, etc. Mais il faut se garder de les opposer.
Michel, est-ce que
oui,
vous êtes...
Oui, je vous écoute.
Vous entendez ce que vient de nous dire Guillaume Duval ? Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, je suis totalement d'accord. Nous, par exemple, nous payons nos voyages en avion quand nous allons à Madagascar ou au Burkina Faso. Et après, nous savons que nous pouvons faire un abandon de frais qui va nous permettre de ne pas être dans l'impossibilité de faire ces dépenses-là. On va récupérer une partie dans nos impôts. Et vraiment, c'est important.
Michel, quel est le nom ?
Les cotisations des adhérents aussi sont en partie déductibles des impôts. C'est un engagement de l'État dont nous sommes conscients.
Michel, quel est le nom de votre association ?
Elle s'appelle ASAMA, Association Solidarité Azur Madagascar Afrique.
Guillaume Holstein.
Oui, moi je voudrais rebondir et souligner deux fois, trois fois ce que disait Guillaume Duval sur l'articulation entre le privé, le public, le personnel, et les institutions et notamment l'État. Je crois qu'on est en train d'assister à une révolution douce, vraiment, et je dois en témoigner. Thierry Kuhn parlait de la révolution de la fraternité il n'y a pas très longtemps.
le président d'Emmaüs.
Exactement, merci. Et on assiste vraiment à une révolution douce dans l'ouverture. Et c'est pour ça que j'utilise le terme fraternité, parce que c'est dire qu'on est vraiment ensemble. Et la solidarité, on en parlait, c'est ça. Et là, on doit témoigner au niveau du Carillon que ben voilà, les habitants, les commerçants, les sans-abri, qui sont aussi actifs, debout, bénévoles chez nous, mais aussi les services de l'État, les services des mairies, les institutions, tout le monde est ouvert et on est appelé, on participe pour réfléchir ensemble de plus en plus, et ça c'est très important.
Pauline Bédon.
Oui, moi je voulais rebondir sur la question de plus on est heureux, plus on est solidaire. Il y a aussi que quand on est malheureux, ou en tout cas quand on traverse des périodes de vie très difficiles comme les jeunes que nous accueillons, aider rend heureux, ou en tout cas, aider est un vecteur pour se sentir mieux. Les jeunes que nous accueillons ont un vrai problème d'estime d'eux-mêmes, et de se rendre compte de la possibilité d'aider et de rendre l'autre heureux, vaut 1000 conseils d'éducateurs.
Alors il faut rappeler que la solidarité, c'est un enjeu majeur de votre projet éducatif à la maison des apprentis d'Auteuil de Sannois.
Oui, alors vraiment, ça a été sur ce constat que si les jeunes sont ici, c'est qu'à un moment donné, on leur a dit « tu as besoin d'être aidé » ou « la famille a besoin d'être aidée ». Et on a essayé de prendre la chose à rebrousse-poil en disant « oui, mais tout ce qu'on va essayer de te montrer ici, c'est que toi-même, tu as une valeur et tu peux être aidé ». Alors la grande action est celle des chantiers de solidarité, parce que voilà, c'est tout au long de l'année que les équipes éducatives s'impliquent et qui vont permettre à ces jeunes de faire l'expérience de mettre leur talent et leur être au service d'un projet solidaire.
Bonjour Jean-Loup.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Quel âge avez-vous, Jean-Loup ?
20 ans.
Alors, vous habitez à la maison de Sannois, des apprentis d'Auteuil.
Oui.
Quelle formation suivez-vous dans cette maison ?
J'ai suivi un CAP paysagiste ainsi qu'un bac. J'ai obtenu le CAP, j'ai eu le niveau bac. Et ensuite, je suis parti au jeune majeur pour continuer mon projet de l'autonomie.
D'accord.
Et actuellement, je suis en CDI à temps partiel à McDonald's.
Bon. Alors, vous avez participé à des chantiers de solidarité internationale. Pouvez-vous me raconter comment ça s'est passé ?
Oui, j'ai participé. Je suis parti aux Comores, dans le village de Samba Mbodoni l'année dernière, pendant 3 semaines avec l'équipe éducative et 9 jeunes. Pour aider ce peuple défavorisé à construire une école et un potager.
Ça veut dire quoi être solidaire pour vous, Jean-Loup ? Vous qui bénéficiez de la solidarité des apprentis d'Auteuil, ça veut dire quoi être solidaire d'aller sur le terrain comme vous l'avez fait ?
Bah, pour moi, c'est-à-dire rencontrer du monde et les aider avec les moyens qu'on possède et pouvoir se soutenir mutuellement tout au long d'une période et ne pas laisser abandonner les autres.
Et est-ce que, du point de vue personnel, est-ce que vous avez acquis plus de confiance en vous ? Est-ce que ça vous a changé, justement, de pratiquer la solidarité comme vous l'avez fait ?
Oui, car je ne connaissais pas ce que c'était, on va dire, la pauvreté à l'état brut. On voyait à la télé, à la radio, mais sur le terrain, c'est complètement différent. C'est une autre vision des choses. Et maintenant, depuis, je vois les choses autrement.
Est-ce que vous trouvez que nous vivons dans une société solidaire, Jean-Loup, de votre point de vue?
De mon point de vue
de jeune de 20 ans.
Comment?
De votre point de vue de jeune de 20 ans, est-ce que vous trouvez que nous vivons dans une société solidaire?
Oui et non, ça dépend après pour quelqu'un, mais après avec toutes les associations comme la Fondation d'Auteuil qui est là pour aider les jeunes, et après tout ce qui est Resto du Cœur, et etc. Mais tout dépend en fait de la situation des personnes.
Rebecca Shankland, votre regard de chercheuse spécialiste en psychologie positive en duplex de Grenoble.
Oui, tout à l'heure, Pauline disait que venir en aide aux autres permettait justement d'augmenter le bien-être chez des personnes qui se sentent pas bien, des personnes dépressives notamment. Et effectivement, ce que montrent les recherches, c'est que, étant donné que ça augmente le sentiment que la vie a du sens, le sentiment d'utilité sociale, le sentiment de lien social, c'est effectivement un des facteurs protecteurs essentiels par rapport aux troubles psychopathologiques. Et donc le fait de venir en aide va agir sur toutes ces dimensions. Et ça agit même sur la dimension physique. Par exemple, des patients qui étaient atteints de cancer, on leur a proposé de participer à une ligne d'écoute d'autres personnes qui étaient atteintes de cancer. Donc elles tenaient cette ligne d'écoute pour venir en aide aux autres. Et on a constaté que ces personnes-là avaient une amélioration des marqueurs biologiques supérieure à ceux qui bénéficiaient de la ligne d'écoute. Donc ceux qui étaient aidés avaient une évolution moins favorable que ceux qui aidaient. Donc ça agit même sur l'aspect physique.
Guillaume Holstein.
Oui, et c'est même la base au carillon de notre travail social, en fait. Parce qu'avant ça, moi, je recevais des personnes qui refusaient l'accès aux droits, l'accès aux soins, et je les emmenais devenir bénévoles. Je leur disais, allez, viens, toi, t'as besoin de personne, peut-être. Effectivement, c'est difficile de toujours recevoir. Mais moi, j'ai besoin de toi, on va aller décharger des cagettes, récupérer des invendus dans les supermarchés pour aller donner pour les soupes populaires. Et là, en faisant quelque chose, en se projetant, en devenant utile, en ayant enfin un petit bout de place, on pouvait commencer à faire du vrai travail social sur l'accès aux soins, etc. Et c'est le principe de base du carillon, où les sans-abri sont bénévoles, il y a les soupes impopulaires, il y a les ateliers, il y a l'insertion, il y a plein de choses.
Pauline Bédon.
Oui, et on parlait tout à l'heure d'amitié, de liens humains, et je crois que c'est vraiment ça, quand on va pas très bien, on a aussi une petite tendance à avoir du repli sur soi, et que la solidarité, c'est la relation à l'autre. Je suis assez contente parce que dans le nouveau projet stratégique des apprentis d'Auteuil, un des premiers axes, c'est remettre la relation au cœur de la relation éducative. Et je crois que pour nos jeunes qui ont parfois, moi j'ai des jeunes qui sont jamais sortis de leur département, de leur banlieue, de leur cité, l'occasion de la solidarité, c'est aussi sortir de soi-même, de son quartier, de son endroit, et rentrer en relation avec l'autre qu'on n'aurait jamais rencontré sinon, qui nous fait peur par ailleurs. Et puis tout d'un coup se retrouver au même endroit et devenir amis éventuellement.
Merci beaucoup Jean-Loup, je vous souhaite une bonne route dans votre vie. À très vite. Guillaume Duval.
Oui, je voulais revenir...
L'alternative économique.
Je voulais revenir sur ce point... Bon, sur la psychologie, c'est pas mon rayon, mais sur un point particulier, je pense que ces questions-là sont très importantes, c'est sur l'efficacité de l'action. C'est-à-dire que le fait que les gens qui sont en difficulté soient associés à la définition et à la mise en œuvre des mesures qui sont prises dans un cadre associatif ou autre, est absolument déterminant pour l'efficacité de l'action. Un des problèmes qu'il y a de l'action publique, étatique, en particulier dans ce domaine-là, c'est que comme les gens qui définissent ces choses-là ne connaissent pas la réelle situation des gens, ils sont à côté de la plaque assez souvent. Donc c'est un moyen aussi d'accroître l'efficacité de l'action dans ce domaine. C'est un point que ATD Quart Monde, par exemple, souligne toujours très fortement.
Le regard de notre philosophe chroniqueur Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, juste un mot pour dire qu'en fait, ce qu'on décrit là, ce sont des logiques de don et de contre-don. C'est le concept qui est mis en place par l'anthropologie et la sociologie au milieu du XXe siècle.
Marcel Mauss.
Voilà, enfin, Marcel Mauss 1930, et puis après c'est un peu plus tard avec Lévi-Strauss. Et en réalité, c'est de dire que nous, on voit toujours le don, c'est-à-dire on voit toujours la façon dont la logique est descendante. Effectivement, on donne quelque chose. Et tout ce que vous décrivez, en fait, et ça permet de caractériser la solidarité, c'est en fait la relation de retour, le contre-don. Et c'est ce qu'on entendait avec Jean-Loup, là, qui partait lui aussi pour contre-donner finalement ce qu'il a reçu. Et c'est ce qui distingue finalement la solidarité de la charité. C'est d'être dans l'explicitation du don et du contre-don.
Allez, n'hésitez pas à partager vos initiatives solidaires et les bienfaits que cela procure aux autres et à vous-même. 01 45 24 7000. Dans quelques minutes, on écoutera Françoise de Toulouse. Vous pouvez également nous contacter par courriel grand bien vous fasse à radiofrance.com et sur Facebook, envoyez-nous les liens de vos initiatives solidaires. Talking about a revolution sounds. Don't you know how talking about a revolution sounds like a whisper while they're standing in the welfare lines crying at the doorsteps of those armies of salvation wasting time in the unemployment lines sitting around waiting for a promotion don't you know talking about a We're gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines. Crying at the doorsteps of those armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines.
Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution.
Tracy Chapman sur France Inter à 10h41.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Ce matin, appel à la solidarité à l'initiative de France Inter et de la Fondation Hulot. Coup de projecteur ce matin sur les bienfaits de la solidarité pour les autres et pour soi. Bonjour Françoise, bienvenue dans Grand bien vous fasse. Vous appelez de la bonne ville de Toulouse.
Oui, absolument. Bonjour.
Alors vous êtes présidente d'une association.
Oui.
Quel est l'objet de cette association, Françoise?
Elle aide des femmes de plus de 45 ans à retrouver du travail ou à créer leur propre entreprise ou leur propre emploi.
Comment s'appelle cette association ?
Action Femmes Grand Sud.
Parfait. Alors, quels sont les bienfaits pour les autres et pour vous-même, le fait de s'impliquer dans cette association ?
Ben, je crois que les retours sont énormes. Quand on accueille des femmes au début, elles sont vraiment au 36e dessous, elles n'ont pas confiance en elles. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est leur redonner confiance en elles. Et à partir de ce moment-là, elles sont capables de déplacer des montagnes. Et les voir ce changement, voir ces possibilités d'emploi, soit la dernière, 62 ans, retrouver un CDI, ça nous nourrit et ça nous aide à continuer. Mmh. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de bénévoles qui viennent et des bénévoles qui sont en poste et qui prennent le temps de prendre une demi-journée par-ci, une demi-journée par-là pour venir animer des ateliers chez nous.
Françoise parlait de redonner confiance. Guillaume Holstein, redonner confiance, c'est le cœur de votre association Le Carillon. Merci beaucoup, Françoise, de nous avoir appelé de Toulouse.
Avec plaisir.
Ouais, merci. Oui, redonner confiance, c'est le cœur, l'une des trois missions, qui est changer le regard, en fait. On appelle ça changer le regard, les uns sur les autres et sur soi-même. Et pour ça, on utilise un levier précieux qui est le faire ensemble. Qu'on soit commerçant, habitant ou sans abri, on va tous faire ensemble. Hier, par exemple, on était en train de construire des bacs dans un jardin partagé. Ça permet de faire ensemble qu'on soit riche ou pauvre, ça se voit pas, on est nul en bricolage, et ben on apprend. Et puis ça permet aussi d'apprendre à laisser le temps et à s'autoriser le temps, tout ce qui est jardinage. L'écologie nous apprend beaucoup de choses là-dessus, et notamment sur l'écologie humaine.
Alors vous êtes le cofondateur du Carillon, qui aide les sans-abri depuis 2015. Votre slogan, c'est « Chacun pour tous ».
Et ouais.
Très beau slogan. Thibaut de Saint-Maurice. Ouais, chacun pour tous.
C'est l'inversion totale du chacun pour soi, ouais. De l'égoïsme. Et puis c'est aussi c'est extrêmement stimulant parce que c'est un appel à redécouvrir aussi en soi le fait que on est justement un être qui est en attente et en désir des autres, quoi. Enfin, on est appelé en un sens à être en relation. C'est Merleau-Ponty qui disait que l'homme est un être de relation avant tout, parce que sans ses relations, en fait, il n'est rien. Il n'y a rien en nous qui ne peut subsister sans ses relations.
Alors, Guillaume Holstein, on voit fleurir à Paris des autocollants avec trois cloches sur les vitrines des cafés, des restaurants, des pharmacies. Ce sont des commerces qui assurent un accueil bienveillant aux sans-abri, c'est ça?
Eh oui, on utilise le pivot très très précieux du commerce de proximité, qui est un rôle de lien social extrêmement fort, parce que c'est un endroit où finalement tout le monde se croise pour acheter ou pour utiliser des services. Et aujourd'hui, c'est un endroit où on commence à se rencontrer. Et non plus seulement se croiser plein de fois sans se reconnaître, mais là, on se rencontre autour de valeurs qui sont la solidarité et l'échange de services. Parce que tout simplement, les commerçants offrent des services non coûteux tels que l'accès aux toilettes, boire un verre d'eau, recharger le téléphone portable, etc.
La grande particularité de votre association, c'est que les sans-abri deviennent également des acteurs de la solidarité.
Oui, tout le monde. Tout le monde. Ils sont acteurs, mais on l'est tous. En fait, on fait pas de différence. Les sans-abri vont, comme nous, comme tout le monde, sensibiliser les commerçants, mais aussi sensibiliser les autres sans-abri. Parce que c'est pas évident, quand on s'est fait virer une vingtaine de fois de commerce, d'y retourner. On a beau leur dire, c'est vraiment des commerçants solidaires et sympas. Voilà, c'est eux les plus légitimes pour. Et puis pour nous aider à co-construire les nouveaux services.
Bonjour Miguel.
Bonjour.
Vous avez 22 ans, vous êtes membre de l'association Le Carillon. Comment vivez-vous cette solidarité des commerçants qui vous accueillent avec bienveillance?
Alors, moi j'adore, personnellement. Je suis tombé en galère il y a pas mal de temps. Mm-hmm. Et grâce à ce lien que les commerçants développent, tout le monde met la main et la patte. Et voilà quoi, ça me redonne le sourire carrément.
Ça redonne confiance aussi?
Ça redonne confiance, le sourire, et ça pousse à faire plus, toujours plus.
Et d'ailleurs, vous faites plus parce que vous vous êtes investi dans l'association Le Carillon. Vous êtes bénévole, je crois savoir.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous faites exactement?
J'ai commencé en tant qu'ambassadeur.
Ouais.
Et un ambassadeur, c'est un bénévole très actif, mais qui est en situation de précarité.
D'accord.
Et maintenant, je suis passé coordinateur. Coordinateur entre guillemets, c'est plus. Je parle beaucoup à des bénévoles. Je participe à des maraudes. Je fais pas mal d'activités avec des sans-abri. Mm-hmm. Et voici, tout simplement.
Guillaume Holstein.
Ouais, Miguel est humble. En fait, il est le pivot de tout ce qui se passe dans le 11e maintenant, entre les commerçants. 11e arrondissement de Paris, pardon.
Parce que votre action est surtout ciblée à Paris pour le moment.
Alors, non, plus
non,
maintenant.
Ah bon,
ça y est, j'étais hier à Marseille. On a démarré à Lille, Nantes, on prépare Lyon. Mais effectivement, ça a démarré dans le 11e arrondissement. Exactement.
Reprendre Miguel.
Oui. Et Miguel, voilà, il est hier, Miguel, je sais pas s'il est toujours en ligne, mais.
Si, vous
Ah bah Miguel, tu peux dire ce que tu faisais hier. Il était en train de construire ou d'animer tout un ensemble de personnes qui construisaient des bacs pour faire des jardins partagés, plantés ensemble. Donc on soit avec des jeunes retraités, non, ou des retraités, des handicapés d'une ESAT, des enfants d'une école juste à côté. Vraiment autour d'un petit square, bah voilà, il rassemble un petit peu tout le monde et c'est ça qui est chouette.
Miguel ?
Oui ?
Eh bien, qu'est-ce que vous avez fait hier? Racontez-nous, on a envie de savoir.
Hier, j'ai animé une équipe, une petite équipe. Alors, il se passe qu'on est en train de travailler avec un petit collectif qui est sur le jardin partagé. Alors, on est au jardin partagé Truyot, à Saint-Ambroise, et on s'est mis en relation avec plusieurs associations du quartier pour pouvoir... on s'est mis avec une association des personnes handicapées pour qu'ils voient autre chose que des hôpitaux. On s'est mis aussi en relation avec des personnes âgées et des CHU, centre d'hébergement qui sont juste à côté. On s'est aussi mis en lien avec des écoles pour faire sensibiliser les enfants à la végétalisation. Et c'est très important parce que maintenant, on s'est rendu compte qu'il y a très, très, très peu d'espace vert à Paris. Surtout dans le 11e, on est à 0,7 mètres carrés par habitant. On est le taux le plus bas par rapport à l'ensemble de Paris.
Merci beaucoup, Miguel. Je vous souhaite bonne route dans votre vie. Rebecca Chankland, professeure de psychologie à l'université de Grenoble-Alpes, en duplex de Grenoble, vous vouliez intervenir?
Oui, tout à l'heure, Françoise disait qu'il y a aussi des salariés qui donnent de leur temps. Et je voulais ajouter qu'il y a aussi des entreprises solidaires qui proposent à leurs salariés d'intervenir dans le cadre d'actions de solidarité pour des personnes en situation de précarité sur leur temps de travail, c'est-à-dire qu'ils leur dégagent un certain nombre d'heures pour qu'elles puissent intervenir. Et donc, ça faisait écho à ce que vous disiez tout à l'heure de l'importance aussi des institutions, pas seulement le milieu associatif, mais les institutions telles que les entreprises, qui peuvent aussi jouer un rôle en facilitant le temps qui peut être accordé à ce type d'action.
Pauline Bédon.
Alors, j'en suis un grand témoin parce que notre action n'aurait pas cette qualité.
Aux apprentis d'Auteuil.
Tout à fait, sans l'apport d'entreprises privées. Je bénéficie notamment d'un mécénat de compétences d'une personne qui est détachée par Orange et qui, 3 jours par semaine, travaille chez nous et s'occupe de mes élèves les plus décrocheurs.
Guillaume Duval, pouvez-vous nous parler du projet Tapage qui propose à des jeunes de la rue de travailler quelques heures sur un chantier et d'être payé en fin de journée? Tapage, ça veut dire travail alternatif payé à la journée.
Oui, c'est une idée à la fois très simple et très intéressante. Ça a été développé au Québec et en fait, donc une personne, Jean-Hugues Morales, donc a découvert ça au Québec en 2010 et a proposé de le mettre en œuvre en France. C'est notamment développé à Bordeaux. Donc ça s'adresse principalement aux jeunes qui sont dans la galère parce qu'ils les dépendances des drogues. Donc c'est un moyen de les tirer progressivement de cette galère, donc en leur proposant effectivement de travailler 4 heures par jour sur un chantier, mais aussi d'être payé tout de suite. De pas attendre la fin du mois pour être payés. Ils sont payés par chèque et après ils vont échanger ces chèques à la poste. Mais le fait de rentrer dans le circuit d'une institution, d'une association qui les aide, ça permet de rencontrer des travailleurs sociaux, de rencontrer des psychologues, de commencer à rentrer dans un chemin qui leur permet de sortir de la galère progressivement et ça marche bien.
Guillaume Holstein.
Oui, je confirme, ça marche bien. À Paris, il y a quelque chose d'assez proche qui s'appelle le dispositif Premières Heures, qui a été créé il y a plus de 10 ans par Emmaüs et la mairie de Paris, Pauline Véron en particulier, qui fonctionne très très bien pour reprendre confiance. On parlait de la confiance, commence par 1 heure, 4 heures, 8 heures, etc.
Guillaume Lechtein, il faut rappeler que l'une des plus grandes souffrances des sans-abri, c'est l'isolement et nos regards qui se détournent. Un sondage BVA pour Emmaüs indiquait que 83% des sans-abri se sentaient rejetés par les passants et par les commerçants. C'est important, la reconnaissance.
Oui, et alors là, je profite d'être à l'antenne pour passer un très court message. Quand vous n'avez pas de pièces et que vous croisez un sans-abri, et je parle en leur nom, ne détournez pas le regard. Dites-leur bonjour, souriez, un coup de tête, un signe de main. C'est extrêmement important et neurologiquement, ça redonne de l'énergie, de la force et ça permet même de lutter contre le froid.
Et l'absence de reconnaissance, eh bien, c'est ce sentiment de ne pas être reconnu, d'être méprisé, d'être humilié au quotidien quand on n'occupe pas une place privilégiée dans nos sociétés. C'est très bien analysé par le grand sociologue allemand Axel Honneth, dont je recommande la lecture. Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000 par courriel, grand bien vous fasse, à radiofrance.com. Et sur Facebook, envoyez-nous les liens sur les initiatives solidaires dont vous êtes l'acteur.
À lire EBI sur France Inter.
Parcels, my enemy.
À lire EBI, grand bien vous fasse. Sur France Inter.
Voilà, j'étais un peu surpris à 10h55. Ce matin, appel à la solidarité à l'initiative de France Inter et de la Fondation Hulot, code projecteur sur les bienfaits de la solidarité pour les autres et pour soi. Bienvenue Geneviève dans Grand bien vous fasse. Vous appelez de la Creuse. Où exactement?
Oui, bonjour, j'appelle de Châtelut-le-Marchais dans la Creuse.
Bon alors, quelles sont vos initiatives solidaires au quotidien, Geneviève?
Alors, je n'en ai qu'une à répétition. C'est le marché gratuit que j'organise tous les 3 mois sur ma commune.
Alors, comment ça se passe?
Alors, ça se passe. Les gens amènent ce qu'ils ont en trop à la maison. Ça peut être n'importe quoi. Des outils, des semences, de la nourriture, des vêtements, des bibelots, vraiment n'importe quoi. Et on a vraiment eu de tout et n'importe quoi. C'est posé sur, on arrive, on pose ça sur une table et puis après on papote avec les gens et puis on laisse les choses se faire et les gens se servent ce qui leur plaît, ce dont ils ont besoin. Voilà, en gros, comment ça se passe? On mange ensemble, passe avec les choses que les gens auront amenées, enfin bref, on passe des journées d'échange solidaire.
Donc c'est tous les 3 mois?
C'est tous les 3 mois.
Dans quelle ville, quel village, rappelez-vous?
Alors c'est à Châtelut-le-Marchais.
D'accord. Guillaume Holstein.
Mais oui, moi ça me fait sourire parce que c'est beau. C'est, on voit bien en quoi la solidarité devient un prétexte à créer du lien finalement. On parlait de définition de la solidarité tout à l'heure, mais c'est ça. Mais c'est ça qui rend heureux. Comme tout ce qui rend heureux, ça commence par une ouverture. Et là, le prétexte, c'est, allez, on va échanger. On va échanger des produits, mais en fait, finalement, voilà, on le dit très bien, finalement, on papote.
Rebecca Shankland, en duplex de Grenoble.
Oui, ça fait écho à ce que vous évoquiez au début, le déni de solidarité, en début d'émission. Je me disais, peut-être qu'il s'agirait plutôt d'un manque de développement de cette culture solidaire dans certains contextes, et notamment, je pense, au contexte scolaire, où on est davantage empreint par cet univers de compétition. Je me disais, il y aurait peut-être quelque chose à faire pour ne pas devoir attendre que les personnes soient plus âgées pour s'y mettre, mais on pourrait développer davantage la coopération, alors que c'est quelque chose qui est peu valorisé, finalement, par les enseignants. Par exemple, il y a une étude qui a été faite par l'Université de Franche-Comté, qui a montré que les enseignants considèrent que les élèves qui sont davantage coopératifs sont des élèves qui vont moins bien s'en sortir. Donc, quelque part, ils dévalorisent ces compétences-là plutôt que de les cultiver. Donc, je me disais, peut-être ce serait intéressant d'agir dès le plus jeune âge.
Et Guillaume Duval, Louis Gallois, dans les dossiers d'alternatives économiques, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef des dossiers, nous dit, il est président des acteurs de la solidarité, il nous dit que la solidarité doit être pensée comme un investissement et un projet politique structurant pour la société. En quelques mots, mieux vaut prévenir que réparer plus tard.
Oui, donc ce que dit Louis Gallois est très important, mais ce qui vient d'être dit est aussi très important, non seulement sous l'angle du bien-être et de la psychologie, mais aussi sous l'angle de l'efficacité économique. C'est-à-dire que l'accent qui est mis aujourd'hui dans nos sociétés, à l'école en particulier, sur la compétition est une connerie majeure. C'est ce qu'on a besoin pour avoir une activité économique qui fait du profit, qui est efficace, etc. C'est justement de coopération et de solidarité, et c'est ça qui manque beaucoup dans nos sociétés. Et toutes les actions qu'on a décrites y contribue, et donc non seulement elle ne coûte pas, mais elle rapporte.
Merci beaucoup Rebecca Shankland en duplex de Grenoble. Merci Guillaume Duval, Pauline Bédon et Guillaume Holstein d'être venus ce matin. Demain, nous vous attendons très nombreux au Salon du Livre dès 9h45 pour une émission consacrée aux vertus thérapeutiques des ateliers d'écriture. Venez nombreux si vous écrivez des journaux intimes, des lettres d'amour, des autobiographies ou des sagas familiales. Nous reviendrons également sur les vertus de la bibliothérapie. Nous vous attendons très nombreux au stand de France Inter. À la technique ce matin, Éric Morin et Pauline Laverdure. La programmation musicale était signée Muriel Pérez.